Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Bonjour, aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Racontez-nous votre Montpellier, je reçois Jean-Louis Siani. Jean-Louis, nous n'allons pas user d'un vouvoiement factice, vu que voilà près de 40 ans que nous nous côtoyons. Tu as été journaliste à Midi Libre, puis à l'agence de presse JAM, journaliste associé de la Méditerranée. Tu as travaillé ensuite dans la communication, au sein d'une agence, Anatome, puis dans une entreprise, Air Littoral, et enfin à la communauté d'agglomération de Sète. Ce que ce CV réducteur ne dit pas, c'est ton activité continue, apparente ou pas, ton fil d'Ariane, la philosophie. Tu es le genre de type capable de citer Kant en partant en reportage. Pas par pédanterie, je crois, mais parce que les mots du philosophe te semblent faire écho à la situation du moment. Cet exercice régulier de la philosophie et cette fréquentation familière des grands textes ont donné naissance à une dizaine de livres, non pas ouvrages abscons, mais viatiques pour aujourd'hui, nourris d'antiques réflexions. Après nous avoir entraînés dans les pas d'Ulysse ou de Hercule, tu nous proposes de suivre Socrate, avec ton dernier livre, Socrate, médecin pour temps de crise et catastrophe. Mais d'abord, c'est le principe de l'émission, raconte-nous Montpellier. Tu es né et as vécu à Sète. Comment et quand as-tu découvert Montpellier? Que représentait cette ville alors, quand tu étais donc un jeune Sétois?
Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'elle représentait? D'abord, je me souviens, la première fois que je suis venu à Montpellier avec mon père en voiture, j'étais tout petit, et je lui ai dit, mais alors, quand est-ce qu'on va à Montpellier? En deux mots, hein, puisqu'il disait toujours Montpellier, Montpellier. Alors, je dis, est-ce qu'on ira un jour à Montpellier? Bon, voilà, ça, c'était la première arrivée à Montpellier. Ensuite, je suis venu après le bac, j'avais tout juste 17 ans, et je me suis retrouvé dans une ville qui n'avait absolument rien à voir avec mon île sétoise, où on jouait son identité totalement autrement, où on était, j'avais l'impression, bon, c'était quand même en 69, donc j'avais l'impression qu'on était dans un territoire libre, alors qu'à Sète, l'identité native est très importante.
Voilà. Donc c'était un espace d'émancipation ou de...
Tout à fait, c'était un espace d'émancipation, de liberté. Et puis, en plus, bon, il se trouve que j'ai une identité forte à Sète, puisque tout le monde sait qu'une partie de ma famille produit l'étielle. Et surtout que j'ai un grand-père qui a gagné 8 ou 9 fois la Saint-Louis, donc ça faisait une identité très forte. Et je ne pouvais pas jouer j'avais l'impression que je ne pouvais pas jouer ma liberté là-bas, oui. Où il y avait quand même une communauté...
Une espèce de poids social.
Voilà, puis une communauté italienne. Et là, je m'en suis libéré en arrivant à Montpellier, où je rencontrais des gens qui venaient d'ailleurs, hein, ne serait-ce que toi ensuite, hein, des gens qui venaient de l'arrière, entre guillemets, pays, de Nîmes, de Perpignan, et tout ça, et d'ailleurs, d'autres régions. Et tout ça se brassait, tout ça... Et je me faisais la réflexion, je me disais... À Sète, tout le monde sait avec qui tu es, combien tu as sur ton compte en banque. Et à Montpellier, tu peux aller tout nu de la Comédie jusqu'au Pérou et personne ne te regardera. Enfin, à cette époque, c'était comme ça.
Et est-ce qu'il y a cette fréquentation de Montpellier qui s'est perpétuée sous différentes formes ensuite, hein, est-ce qu'il y a des lieux emblématiques, des lieux qui ont eu dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle une signification particulière? Alors, peut-être pas les lieux des cartes postales, bien entendu. Mais c'est voilà. C'est...
D'abord, il y a eu la fac. Si j'avais pu y passer ma vie, j'y aurais passé ma vie, parce que c'était quand même assez cool, la fac des lettres, puisque j'ai fait toutes mes études là-bas. Et puis, il y a des lieux particuliers que j'aime. Par exemple, j'adore l'Esplanade. Je ne devrais pas le dire, mais en pleine canicule, c'est le lieu le plus frais de Montpellier. Donc, je vais au bar de l'Esplat, pas de pub. Et puis j'y vais des fois à l'automne, au printemps, j'écris, je lis là-bas. C'est un des lieux que j'aime bien. La place Chabanneau aussi, hein, voilà. Maintenant, j'habite Castelnau, donc je suis plus attiré par le centre. Hein. J'aime aussi les berges du Lez où je vais me promener. Voilà un peu les lieux, mais c'est des lieux plutôt du centre.
Et à ton avis, en quoi Montpellier se singularise, se caractérise par rapport à d'autres villes que tu as pu connaître, françaises ou pas ? Est-ce qu'il y a un style, une manière d'être une ville, si j'ose dire, qui mérite d'être indiqué, en tout cas, dans lequel tu... Voilà, c'est un exercice peut-être difficile à quoi je t'invite. Ou pour le dire d'une autre manière, quand des membres de ta famille ou des amis qui habitent ailleurs viennent à Montpellier, ils ne connaissent pas Montpellier, ou peu, qu'est-ce que tu leur dis, quoi ? Comment tu leur racontes la ville ? Quels sont les conseils de balade que tu leur donnes, par exemple?
D'abord, je leur donne des tuyaux pour éviter les embouteillages. Ça, c'est vraiment un point noir aujourd'hui de la ville, quoi. C'est ça qui... Mais on a connu... Je crois qu'aujourd'hui, Montpellier s'est banalisé. Il y a eu effectivement une période... on se souvient, on peut aimer ou ne pas aimer Georges Frêche, hein, mais bon, il inaugurait 10 mètres de trottoir, ça devenait un événement pour la ville. Hein. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de récits sur la ville, il n'y a plus de propos sur la ville. La ville est une sorte de grand chantier, on ne sait pas pourquoi, c'est un croissement quantitatif. Et je trouve que cette ville a changé, elle perd un peu son âme aujourd'hui, je trouve. Alors que Sète aussi, hein, puisque je suis à cheval en fait, hein, j'ai encore de la famille à Sète, j'y retourne. Sète aussi, Sète, c'est un peu les marchands du temple maintenant avec les séries télé, ça devient... tout est à vendre, hein, tout est à vendre à Sète. On sent moins ça à Montpellier, mais bon.
Mais est-ce que cette mutation là, dont on a été, toi et moi, vu notre génération, les observateurs, et peut-être un peu les acteurs, il y a une croissance démographique, hein, il y a une croissance urbaine, ou urbanistique, hein, et est-ce que ces deux phénomènes, très forts, plus forts que souvent ailleurs, dans d'autres villes comparables, ont produit ce que tu appelles banalisation?
Je crois oui, parce que, en fait, bon, si je comprends bien, il faut payer le tramway. Pour payer le tramway, parce que l'agglo n'avait pas l'argent pour le faire, il faut générer des ressources, taxes foncières, bon, moins de taxes d'habitation. Et donc, on est obligé de faire tout le long du tramway une sorte de ville comme dans le Far West, hein, où il y a la piste et puis rien derrière. Aujourd'hui, c'est ça. Si vous voyez Castelnau, les gens habitent entre la voie du tram et la voie ferrée. Bon. Donc ça construit plus qu'une image, ça construit une réalité au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des chantiers tous les 10 mètres, donc avec des embouteillages. Et on ne sait pas pourquoi on fait tout ça, en fait. Alors Frêche, c'était on va vers la mer, hein, c'était la ruée vers la mer. Bon, là, maintenant, on a l'impression que tant que les habitants ne pourront pas se garer sur l'autoroute, quasiment, ça va continuer, quoi, hein. Et chaque architecte fait son petit pâté sans aucune cohérence globale. Et c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, quand on passe sur l'autoroute, ce qu'on voit de Montpellier, c'est l'image de Nîmes dans les années 60 avec ses grands immeubles. Alors, quelle vie derrière, quelle agora, quelle place publique, quelle relation entre les gens? Est-ce que les élus pensent à ça? Est-ce qu'ils aménagent ce qui va se passer après, derrière, hein? Je ne sais pas, venez à Castelnau, vous verrez le soir... on se croirait dans, comment s'appelle ce film, c'est mythique, ou les Aristochats, hein, les gens oui. Se promènent avec leurs chiens, ça donne une humanité assez quand même vide, quoi, hein. Les rues sont vides, enfin, moi je trouve qu'on perd un peu son âme uniquement pour une sorte de boulimie de promoteurs immobiliers, qui chacun ajoutant son pâté, sa grue, sa bétonnière, bon, à qui ça profite tout ça? Sans doute aux entreprises qui sont cotées au CAC 40.
Et en tout cas, bon, le travail sur les espaces publics, la Comédie, l'Esplanade, dans les nouveaux quartiers, qui est, bon, me semble-t-il, un des éléments, hein, du projet politique tel qu'il est mis en œuvre, n'apparaissent pas à tes yeux ou sont une réponse insuffisante,
hein. Ben, j'appréhende, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de l'Esplanade, et j'espère qu'ils vont pas trop la toucher, quoi. Parce que bon, c'est encore la comédie. Bon, il y a un surinvestissement de la comédie. Mais bon, pour l'instant, l'esplanade est restée, bon, elle est restée telle qu'elle était, quoi. Hein. Je ne sais pas ce que les aménagements vont produire sur... un mot peut-être aussi, ce qui est regrettable, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, Fraîche, avant de piétonniser, il a créé des parkings. Bon, je sais qu'aujourd'hui, les parkings, ce n'est plus à la mode. Mais aujourd'hui, on crée de grandes voies cyclables où on a quelques bobos qui se promènent le soir. Et puis, à côté, vous avez un embouteillage. C'est-à-dire qu'on produit de la pollution qui n'y était pas. Alors, est-ce que c'est ça la logique bon, c'est un peu punitif pour les automobilistes parce que ils vont bosser, hein, ils vont pas faire un rallye sur l'avenue de la Justice, par exemple. Ils vont bosser, ils rentrent chez eux. Est-ce que c'est normal de les punir en se disant, bon, de toute façon, dans 20 ans, il faut... Non, créer des parkings où les gens puissent se garer, aménager des transports. Et après, on verra si on fait des grandes pistes cyclables qui sont aujourd'hui quasiment inutilisées, quoi. Et on en parle beaucoup en ville. Hein. Je ne veux pas faire de polémique, mais c'est un sujet rémanent et central dans les discussions avec les gens. Bon, it's life.
D'une manière plus générale, est-ce qu'à ton sens, la ville, bon, la ville de Montpellier en l'occurrence, apporte aux habitants les services, est-ce qu'elle répond à leurs besoins? Donc, il y a ce besoin de rencontre d'Agora dont tu disais qu'il était insatisfait ou pas insuffisamment pris en compte. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut attendre d'une ville sur tous les plans, hein, dans la vie quotidienne ou dans la vie culturelle, dans sa santé, etc. Est-ce que la ville est là? Est-ce qu'elle est au rendez-vous de ce que les habitants attendent?
Il y a quand même, faut pas non plus tout noircir, hein, il y a quand même des équipements culturels et sportifs qui sont magnifiques, hein, pour une ville comme la nôtre. Il y a beaucoup de choses positives qui sont faites, hein, dans les médiathèques, les médiathèques dans les communes aussi de l'agglomération. Donc ça, je crois quand même qu'on est prêt, on est équipé. Non, il manque une sorte de supplément d'âme. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les politiques sont capables de l'apporter. Ce sont des gestionnaires, ils appliquent des procédures, qu'elles soient nationales, européennes, et puis ils gèrent, quoi. Ils gèrent leur majorité. Je ne sais pas. Je m'interroge, en fait.
Est-ce que ce n'est pas la question de l'urbanité dont nous parlons? Est-ce que ce n'est pas ces liens, ce qui se tisse sous différentes formes entre un habitant, une habitante et l'espace de vie, souvent, de travail, de domicile dans lequel il se situe, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui fait défaut, pour le coup?
Oui, aujourd'hui, il y a même quelque chose. Ce n'est pas que ça tisse plus, ça détisse. C'est-à-dire que c'est le marché qui prend le dessus sur la vie publique et sur la politique, sur l'espace public. Donc, et d'ailleurs, alors c'est une sorte de système en feedback. Est-ce que les gens demandent de l'espace public, hein? Tout le monde se réfugie dans l'en-soi de sa maison, commande sur Internet, rencontre sur Internet, s'amuse à lancer des anathèmes sur l'un ou sur l'autre avec un avatar. Donc, est-ce que nous avons encore envie, besoin, hein, peut-être, d'une vie publique? Alors, je crois que c'est parce que nous sommes gavés par une société de consommation qui veut absolument nous river, on l'a vu avec le confinement, qui nous attacher dans un espace public et nous traquer dans cet espace public. Parce que les algorithmes, c'est ça. On se croit libre, on croit qu'on peut commander, acheter ce qu'on veut, mais en fait, on est sans arrêt poursuivi, ciblé par des machines à nous faire consommer, des machines commerciales. Voilà la liberté. Alors c'est un peu, pour revenir au bouquin, un peu comme dans la caverne de Platon, où tout le monde se croit libre, mais en fait, tout le monde est attaché, quoi. Hein? Alors, effectivement... J'essaie, moi, de tourner un peu la tête ailleurs et d'entraîner les gens avec moi.
Alors, précisément,
dans cette conversion.
De ce dont nous parlons au livre, il n'y a qu'un petit pas à faire. Hein, notamment, et c'est une des choses qui m'ont frappé, le livre, bon, il s'intéresse aux individus. On va y venir, hein, comment ils se situent, hein, comment ils pensent leur vie. Mais la relation à la cité, la vie collective, est tout autant prise en compte dans la pensée de Socrate, telle que tu nous la racontes. Est-ce que cet aller-retour entre la part individuelle, voire individualiste, hein, et la conscience d'être partie d'un ensemble, appelons ça la cité, comme elle l'était autrefois, est un des fils conducteurs pour comprendre les réflexions sur lesquelles Socrate veut nous entraîner.
Alors, d'abord, pourquoi ce travail, hein, pourquoi en fait, pourquoi on pivote comme ça pour retourner, changer d'espace et de temps. J'ai pensé à une phrase à une série de livres de Nietzsche qui s'appelle Les considérations inactuelles ou intempestives, et où il dit il ne faut surtout pas rentrer dans le débat de l'époque, parce que, comme nous venons de le faire malheureusement, parce que ça accroît le brouhaha, ça accroît le désordre. Donc il dit il faut plutôt essayer de se sortir de l'actualité pour essayer d'y revenir. Et c'est le principe, c'est le fil conducteur de ce livre. Aller voir finalement, un peu comme on dit au foot, revenir aux fondamentaux. Donc j'ai essayé de revenir aux fondamentaux de notre culture, mais pas simplement de notre culture, de notre raison, de notre pensée, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait ensuite lire de notre actualité. Alors, il ne faut pas fantasmer une société grecque idéale. C'était une société esclavagiste, comme toutes les sociétés de l'Antiquité. Donc, moi, j'ai pas cette idéalisation rétrospective de la Grèce. Mais quelque chose frappe quand on lit notamment les livres de Platon, c'est l'emboîtement entre l'individu qui n'existe pas comme nous et le citoyen. C'est-à-dire que le citoyen grec n'est pas un individu à part.
Il est parti d'un tout.
Il fait partie d'un tout. D'abord, il ne travaille pas, donc il faut qu'il aille sur l'agora, pas simplement pour parler ou pour acheter, hein, parce qu'il y a tous les édifices publics, et que lui, en tant que citoyen, il doit voter les lois, faire appliquer la justice et aller se battre s'il a voté pour la guerre. Vous voyez ? Donc, sa responsabilité politique est totalement différente de la nôtre. Il n'y a pas de représentation. C'est-à-dire la démocratie est directe.
Et directe.
Oui. Et d'ailleurs, Socrate lui-même en fera les frais, puisque c'est au terme d'un procès public qu'il sera condamné à mort. Donc, ce qui est intéressant, c'est cet emboîtement. Et je trouve que c'est ce que nous avons vécu, par exemple, dans la situation extrême comme celle du confinement.
Alors, tu en parles à plusieurs reprises, et de mémoire, mais la lecture de livres récentes, donc, tu tires un certain nombre de conclusions plutôt positives de l'effet des mouvements, des cheminements que le Covid, les confinements ont produit à la fois sur chacun d'entre nous et sur la société.
Oui, alors.
Comme si le Covid n'avait pas simplement un simple révélateur, mais un accélérateur.
Il a été, effectivement, un accélérateur. Dans quel sens ? D'abord, dans le sens où chacun se disait oula, très bien, je ne travaille plus, je reste chez moi, donc je vais me refaire la sangle abdominale, repeindre la salle de bain. Pouvoir rattraper la pile de livres que j'ai en retard. Bien. Et puis, au bout de quelques jours, le nombre de mails, d'appels téléphoniques augmentait. D'un seul coup, on avait une furieuse envie de voir les autres. On avait une furieuse envie d'aller au restaurant, de voir les copains, de voir les amis, les enfants. Mes enfants étaient tous loin. Mais c'était aussi des couples qui étaient séparés. C'était dur. Et puis, le soir, comme un idiot, même à Castelnau, dans des quartiers déserts, on sortait pour chanter et saluer les agents de l'hôpital. Le matin, on offrait le café aux agents de la collecte qui passaient. Et puis, la réflexion que j'ai eue, c'est « Mais non, bon sang, qu'est-ce que je suis dépendant des autres ? J'ai pas envie, moi, de m'enfermer chez moi et de regarder mon nombril et de me perdre dans le labyrinthe de mon introspection ou de la vie personnelle. » Je crois que ça nous a rappelé ça. Alors,
l'homme animal social,
tout à fait.
L'être social, qui se redécouvre être social.
Voilà. L'épreuve, dans un premier temps, nous a révélé ça. Je ne sais pas ce qu'il en est resté ensuite. Je crois qu'on métabolise, on digère une fois que l'épreuve n'est plus là. Mais l'homme, c'est ça, il voit parfois, par moments. C'est dans une éclaircie qu'il aperçoit ce qu'il est. Et je trouve que là, c'était intéressant. Ensuite, ça nous a montré, pas simplement notre besoin, notre socialité. Ça nous a appris que nous étions interdépendants, et c'est ce que disent Socrate et Platon aussi, interdépendants de la société. On est dépendant d'une société. Et ça, on l'oublie toujours parce qu'on croit qu'on est un self-made man, qu'on s'est fait soi-même, que rien ne peut nous arriver en dehors de ce que nous avons décidé. Bon, là, on a vu que notre pouvoir personnel était quand même assez réduit. Et sachant qu'aujourd'hui, et c'est aussi la leçon du Covid, c'est que cette communauté, elle est biologique. On appartient à une espèce biologique.
On a découvert ça.
Voilà, on a découvert que le voisin pouvait me sans c'est le savoir, sans le vouloir, sans le savoir.
Que le biologique reprenait sa place.
C'est ce que Foucault appelle le biopolitique. Et là, on était au cœur de ce monde-là. Quoi.
D'accord. Alors, un mot peut-être sur ce qu'est la méthode, la démarche que propose Socrate. Hein, donc, ce n'est pas une introspection solitaire, on vient de le voir, parce que c'est quand même le rapport aux autres qui est un des éléments constitutifs très forts. Mais est-ce que tu peux la décrire? Quelles sont les caractéristiques, j'emploie le mot chemin, que Socrate nous invite à emprunter avec beaucoup de modestie parce qu'il ne dit pas ce qu'il faut penser, il n'a rien écrit. Bon, sa pensée a été reprise par Platon, mais c'est très frappant aussi cette espèce de. Une grande ambition d'éclairer, d'amener les gens à penser leur vie et en même temps, rien d'autoritaire, pas d'injonction. Donc une liberté.
Oui, tout à fait, c'est la base, c'est une des sources. De notre liberté individuelle. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et refuser la liberté individuelle, puisqu'elle est aussi un des piliers de notre démocratie. Hein. La méthode de Socrate, la philosophie de Socrate, c'est une philosophie dialoguée.
C'est ça.
Donc Socrate il irait par exemple à la sortie du match de foot, ou il irait voir le match de foot, il discuterait, il irait sur la comédie, il viendrait avec moi à l'esplanade, hein, il serait partout, au conseil municipal, il serait partout où la cité palpite. Mais là, il ne va pas, il ne va pas se mettre là pour donner des leçons, il va chercher à savoir, il va mener une enquête personnelle. Et cette enquête personnelle devient une enquête collectif. C'est-à-dire qu'avant de, quand il est dans sa prison, avant de boire son poison, il y a toujours un ami qui est un peu idiot dans les dialogues de Socrate. On dit, oh, mais Socrate, comment on va faire quand tu seras mort? En gros, on n'aura plus de gourou. Et où on va le chercher? Ne cherche nulle part. Tu as dépensé ton argent. Menez l'enquête mutuelle. Menez l'enquête mutuelle. L'enquête mutuelle, c'est la recherche en commun. Et là aussi, quand même, on peut critiquer les labos, je serai le premier à le faire, mais dans l'épreuve de la Covid, il y a eu une coopération qui s'est faite.
Oui.
Dans l'épreuve, il faut l'épreuve. Mais pourquoi il faut l'épreuve? Alors que c'est toujours dans la coopération, dans l'entente entre les hommes, qu'on fait des pas en avant. Voilà, c'est vrai, la guerre, oui, ça sert à développer la technologie, mais c'est quand même dans l'entente que des qualités humaines de coopération d'entente, de réussite ensemble, s'expérimente et se s'auto-alimente. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, effectivement, dans ce dialogue, alors, pour revenir à l'individu, Platon, il y a une équivalence entre le dialogue dans la société et le dialogue intérieur, puisque la pensée, d'après Platon, telle qu'il l'a définie, c'est un entretien de l'âme avec elle-même. Donc le dialogue traverse toutes les strates de l'individu personnel, de la personne, et jusqu'à la société. Et dans ce dialogue, Socrate refuse de passer pour un maître.
C'est ça.
Pas de maître. Hein. Pas de maître, pas d'ego. Nous, on entend « je suis la République », on entend « moi, président », on entend des « moi » qui se mettent au milieu de tout, quoi, et qui viennent polluer, en fait, ce qui devrait être, tout simplement. Et qui, d'ailleurs, dans la vie quotidienne, si vous dites trop moi, vous faites vite remarquer. Hein, vous êtes heureusement que dans la vie telle qu'elle se vit, dans la vie réelle, entre guillemets, eh ben, le moi n'est pas bien considéré. Quoi.
Alors, pour ceux qui auraient gardé de leur cours de philo au lycée un souvenir mitigé, voire négatif, dis-nous un peu comment le livre est construit, quelle est cette construction à partir d'un certain nombre de citations, certaines très connues,
voilà,
qui viennent installer, je dirais, un certain nombre de sujets. Là,
oui, j'ai pris des phrases les plus connues de Socrate, ou attribuées à Socrate, hein, parce que des fois, Connais-toi toi-même, c'est d'abord, c'est pas tout à fait de lui. Hein, c'est toujours un peu la tradition philosophique à attribuer ces phrases à Socrate et nous l'identifions. Nous allons sur Google, citation de Platon, vous trouverez à peu près les principales. Donc je me suis dit, tiens, ça va nous faire des entrées pour voir comment on peut, pas les projeter de manière stupide, latérale, enfin immédiate, mais comment on va revenir à ça pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer et qu'est-ce qu'on peut lire dans notre actualité à partir de ce point de vue. C'est pour s'abstraire dans un premier temps. C'est ça la philo. Donc je suis parti de phrases que la plupart des gens connaissent. Je les ai expliquées, je redonnais un peu, hein, parce que bon, ça, hein, la philo, c'est quand même un peu aussi un peu de culture, quoi. Hein. Donc j'ai redonné le contexte, dans quel contexte ça a été dit, pourquoi ça a été dit, et puis j'ai essayé de le transposer. Jamais terme à terme, hein, c'est pas ça qui m'intéressait, mais c'est de voir dans quel esprit on pouvait appliquer ça à notre société.
Oui, parce que le livre, il y a mains allers-retours entre bon, Socrate, hein, la Grèce de l'époque, hein, le fonctionnement de l'époque de la société, le fonctionnement politique, les rapports entre les gens, avec une grande disparité sociale d'ailleurs qui est évoquée, et le monde d'aujourd'hui. Bon, à la fois, bien sûr, l'effet de révélation de loupe qu'a permis le confinement et le Covid, mais au-delà, quoi, c'est-à-dire le fonctionnement de la société, la place qu'occupent ce qu'on appelle les sophistes.
Ah oui, oui.
Ceux qui parlent de manière péremptoire sans savoir. Bon, ça, on a un somme de noms qui viennent en tête. Et c'est ce mouvement-là là, que Monchamblic a essayé d'induire. Là.
Oui, parce que Socrate a des adversaires qu'il a désignés et qui d'ailleurs seront ses trois accusateurs au procès. C'est le démagogue, c'est-à-dire l'homme qui caresse le gros animal, comme il l'appelle, c'est-à-dire la foule dans le sens du poil. Donc le démagogue, le sophiste, c'est-à-dire l'expert qui peut parler de tout et de rien. Hein, bon, je ne citerai pas d'exemple. Et le troisième, c'est ce qu'on appelait les rhapsodes, c'est-à-dire c'était des acteurs qui parlaient devant 3-4 000 personnes et qui jouaient sur l'émotion. Donc vous transposez, on les rhapsodes, c'est les médias, etc., etc. Donc ces trois, je trouve, sont toujours, et ça c'est le combat éternel de la démocratie et de la liberté, on doit, et la philosophie sert à ça, elle sert à développer l'esprit critique contre ces trois formes de discours aliénants qui veulent nous imposer une façon de voir les choses, une vérité. Et j'ajoute peut-être, Alain, pour continuer le parallèle entre l'individu et la société, dans la République, c'est un dialogue un peu complexe qui parle de la justice. Alors la justice, ce n'est pas la même que la nôtre, elle est plus éthique, c'est qui est juste ? Qui est juste ?
Et là, c'est pas qu'est-ce qui est juste, mais c'est qui est juste.
Qui est juste, au départ. Donc, la discussion, c'est ça, qui est juste. Alors, il y a un sophiste qui dit, ce qui est bien, l'inégalité, c'est bien, la violence, c'est bien, la violence, c'est la raison, c'est la loi du plus fort. Et là, encore, Socrate va expliquer que, de la même façon qu'il monte une société idéale, un peu réac quand même, hein, avec trois classes, hein, les producteurs, les gardiens et les philosophes. Et puis, il indique que chaque individu doit faire le même travail. C'est-à-dire, pour lutter contre l'injustice, il faut d'abord lutter contre ses passions négatives. Parce qu'un homme libre, c'est quelqu'un qui n'est asservi à rien, et même pas à lui-même. Donc, il y a une image où il dit, ben, il faut que on puisse dompter le monstre. Il dit, l'homme, en fait, il a été fabriqué avec un monstre polycéphale, celui des passions, des désirs, un lion et un petit homme. Et tout ça a été mal axé et fait l'individu. Et donc, il faut que le petit homme, pour lutter lui-même contre ses désirs polycéphales, cherche auprès de son énergie, de sa volonté, de son ardeur, et qu'il la mette à son profit, plutôt que de la laisser au profit de celui qui crée l'injustice, c'est-à-dire le monstre polycéphale en soi-même et dans la société. Je ne cite pas d'exemple de monstre polycéphale.
À chacun des auditeurs, auditrices, de trouver. Alors, je te l'ai dit en partant, moi, le livre pouvait donner lieu à d'autres, dans tes ouvertures. Hein, mais bon, ça ne sera pas possible aujourd'hui.
C'est bien dommage.
En tout cas, merci Jean-Louis.
Merci à toi,
Alain. À la prochaine fois.
Merci à Radio.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.